Radio Prague, les informations.
Bonjour, fermeture de 5 ambassades tchèques dans le monde. Policiers et pompiers seront dans les rues en septembre pour protester contre le plan d'austérité. Et en cyclisme, Roman Kreuziger déclare forfait pour les championnats du monde. Ce mercredi, le gouvernement tchèque a approuvé la fermeture de 5 ambassades dans le cadre des restrictions budgétaires pour l'année 2010. La République tchèque va ainsi fermer 5 représentations diplomatiques au Congo, au Venezuela, au Kenya, au Yémen et au Costa Rica. Le consulat général de Bombay pourrait également être fermé. Le projet de fermeture de représentations diplomatiques a été vivement critiqué par l'opposition qui estime que cela affectera les exportations tchèques. À l'origine, le ministre des Affaires étrangères avait envisagé d'en fermer une dizaine. Des négociations sont en cours pour éventuellement partager des bureaux diplomatiques avec d'autres pays du groupe de Visegrad. Policiers et pompiers manifesteront dans les rues en septembre pour protester contre le plan d'austérité du ministre de l'Intérieur, Radek Yon. Celui-ci avait fait connaître ses priorités en début de semaine, soit notamment des baisses de salaire. Parmi les autres mesures annoncées, l'annulation de projets de modernisation des bâtiments de la police et des sapeurs-pompiers et de l'achat de nouveaux équipements. Cette annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans les rangs des policiers et pompiers qui dénoncent le manque d'expérience du ministre. Le ministère de la Culture a lancé la procédure visant à classer l'épopée slave patrimoine culturel. L'objectif est de permettre une meilleure protection de la grande fresque réalisée par Alphonse Mucha, notamment lors de prêts à l'étranger. Cette procédure s'achèvera fin septembre, mais le classement de l'épopée ne signifie pas pour autant le règlement du problème autour du déménagement de l'œuvre du château de Moravský Krumlov à Prague. Le Brésil a renvoyé en Allemagne un conteneur de 22 tonnes de déchets qui avaient été amenés illégalement sur son territoire. Selon le ministre tchèque de l'Environnement, les déchets proviennent de la société tchèque Neoma. Le conteneur a été amené au Brésil par une société coréenne qui présentait les déchets comme recyclables. Le ministère de l'Environnement tchèque prépare un contrôle dans cette société. Le conteneur est maintenant transporté en bateau vers Hambourg où les déchets pourraient être liquidés. C'est ce mercredi soir que sera donné le coup d'envoi du 7e Fresh Film Fest, le festival du film étudiant. Cette année, il se déroule à Prague et non plus à Karlovy Vary pour une question de financement. 150 films seront présentés dans le cadre du festival qui possède également 4 sections compétitives. Parallèlement au festival, un groupe de 23 jeunes réalisateurs tourne à Prague des courts-métrages sur le thème des nouveaux envahisseurs dans la capitale tchèque. Le résultat de leurs travaux sera présenté samedi à la FAMU. Le festival s'achèvera le 29 août. Le festival de théâtre d'opéra de musique Théâtrum Koux commence jeudi dans la commune de Koux en Bohême du Nord. Selon le directeur du festival, Stanislav Boradla, au programme, il y a une trentaine de productions qui seront présentées dans divers endroits, dont le musée, dans le lapidarium, l'église, le jardin ou les bains de Koux. Et un petit mot de sport pour finir. L'équipe de République tchèque se déplacera au championnat du monde à Melbourne du 29 septembre au 3 octobre. Sans Roman Kreuziger, son plus sérieux atout, vainqueur du Tour de Sardaigne cette année et 9e au Tour de France 2009, le coureur cycliste a déclaré forfait en raison d'un calendrier chargé. Je ne serai pas bien préparé pour ces championnats à cause des problèmes d'acclimatation après la Vuelta. S'est-il justifié ? On finit par un mot de météo ce mercredi, fête de tous les radim. Selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie est variable à presque clair et les températures s'échelonnent de 20 à 24 degrés pour les maximales. Voilà, c'est fini pour ce bulletin d'information présenté pour vous par Anna Kubishta. Mais restez avec nous, tout de suite retrouvez Alexis Rosenzweig pour la suite du programme.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague présenté depuis nos studios pragois et au sommaire aujourd'hui, la circulation automobile et l'encombrement des villes dans les pays d'Europe centrale et bien sûr en République tchèque, la participation des jeunes au débat politique aussi et la fin annoncée ou presque annoncée des cabines téléphoniques. Ce sont les sujets dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de passer comme toutes les semaines au chapitre de l'histoire, je vous souhaite une très agréable écoute et surtout une bonne réception où que vous soyez dans le monde. Les villes tchèques, slovaques, hongroises et polonaises n'en font pas suffisamment pour limiter la circulation automobile et ainsi améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Tel est le constat qu'ont fait les responsables de 4 organisations non gouvernementales de chaque pays, actuellement réunies dans la capitale tchèque. Ensemble, ils ont donc lancé un nouveau débat visant à réfléchir aux différents moyens permettant d'améliorer la qualité de vie dans ces 4 pays d'Europe centrale. Guillaume Narguet.
Selon plusieurs études internationales réalisées ces dernières années et comparant le niveau de qualité de vie dans différentes villes du monde, Prague, Bratislava, Budapest et Varsovie se classent très loin derrière d'autres capitales européennes comme Vienne, Copenhague ou Berlin. Tandis qu'un grand nombre de métropoles en Europe du Nord et de l'Ouest ont mis ou mettent en place diverses mesures visant à inciter les gens à se déplacer en empruntant les transports en commun ou à vélo, une ville comme Prague n'a pas encore fait de l'environnement et du développement durable ses priorités. Membre de l'organisation Automate, qui lutte notamment pour la limitation de la circulation automobile à Prague, Vitek Massare estime qu'il manque pour cela d'une véritable volonté politique.
La majorité des hommes dirigeants ne voient pas trop à travers des frontières de leur arrondissement, ville ou au maximum pays. C'est juste qu'on est trop concentré sur notre vie et la capacité d'accepter qu'il y a des courants qui ne sont pas rien de nouveau, mais qui sont déjà réalisés dans des dizaines de villes ailleurs. C'est quelque chose qui est assez difficile à trouver ici. Des gens se disent que ici on vit à Prague, par exemple. Et Prague, c'est la meilleure ville en Tchéquie, et c'est la grande capitale et tout. Mais oui, alors on oublie un peu que alors ça devrait se développer aussi et ça peut pas rester uniquement juste un musée où en fait les habitants de la ville se juste déplacent d'un côté à l'autre en voiture et n'y vivent plus. Des courants actuels de l'Ouest sont que on veut et on peut changer de ville de telle manière qu'elles deviennent des villes à vivre, des villes pour vivre. Et pas seulement des villes pour passer le temps.
Si ce constat vaut pour Prague et la majorité des villes tchèques, Vitek Massare estime également qu'il vaut également pour les autres pays du groupe de Visegrad. À Budapest toutefois, par exemple, la situation tend à s'améliorer. Là-bas, le club des cyclistes hongrois, organisation la plus importante du genre en Hongrie, milite et travaille en étroite collaboration avec la municipalité afin de promouvoir l'utilisation du vélo et d'améliorer les conditions de circulation pour les cyclistes. Bien qu'il n'existe pas de tradition de l'utilisation de la bicyclette comme dans d'autres villes européennes, les multiples campagnes organisées depuis 3 ans font que le nombre de cyclistes à Budapest a doublé chaque année jusqu'à représenter désormais 5% de la totalité du trafic. Malgré cela, la perle du Danube souffre toujours d'une forte circulation automobile et d'embouteillage. D'après Virág Kovács, représentante du club des cyclistes hongrois, la présence de voitures trop rapides et dangereuses décourage un grand nombre de Budapestois à monter sur leur vélo pour se rendre au travail, à l'école ou faire leur course.
A lot of people think there are some obstacles and that's why they don't use it. So we know that
De nombreuses personnes pensent qu'il y a trop d'obstacles et c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas leur vélo. Nous savons que 70% des habitants possèdent un vélo, mais ils ne l'utilisent que comme un passe-temps pour faire des promenades, mais pas vraiment au quotidien pour se déplacer. Notre rôle est donc de briser ces barrières et de leur montrer que le vélo est un réel moyen de transport et n'est pas fait seulement pour le tourisme. Mais je pense que progressivement, les gens réalisent que c'est plus confortable, plus rapide et plus durable d'utiliser le vélo.
À Prague, où l'amélioration du trafic automobile est une des priorités pour la municipalité et où malgré la crise économique, le nombre de véhicules par habitant augmente constamment, on est encore loin d'une telle évolution à la hongroise, comme le regrette Vitek Massare.
Je pense que c'est donné par aussi ce changement, disons, social après la révolution du vélo, où en fait des gens tentaient d'avoir ces voitures. Et c'était la première fois où c'était plus accessible d'une manière. Et d'avoir une voiture, c'était une espèce d'indicateur de niveau social. Et comme ça, en fait, le nombre des automobiles à Prague augmentait énormément. Et en fait, avec le nombre croissant des propriétaires des voitures, et ça, je me souviens plus des chiffres, mais je pense que ça doublait pendant les premières 10 ans, pendant les années 90, le nombre des voitures ici. Donc alors, les conducteurs des voitures sont assez nombreux. Si on veut recevoir des votes aux urnes, donc on essaie de faire le plus possible pour ceux qui sont les plus nombreux.
Vitek Massare va plus loin encore dans sa critique en comparant la situation actuelle à Prague à celle de Minsk et de Londres, diamétralement opposées.
Maintenant, c'est une situation que je peux très bien comparer avec ce que j'ai vu il y a 2 semaines en Biélorussie, à Minsk, là. C'était de l'enfer. Juste des autoroutes partout. Tout le monde avait des voitures superbes dans un pays qui n'a pas de liberté. Mais c'est tout à fait la même chose qu'on peut voir ici dans une mesure beaucoup plus petite, mais toujours, que voiture, un indicateur de niveau social. Alors, il n'y a pas de volonté de changer quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui doit vraiment venir prendre sa source de quelqu'un qui est un peu éclairé tout en haut. C'est le cas qu'on connaît de, par exemple, Londres, où maintenant le deuxième maire qui soutient ce développement durable et diminution des voitures de centre-ville. Le précédent a introduit des frais pour entrer au centre-ville. Le suivant, celui actuel, a commencé à réaliser des investissements pratiquement gigantesques dans l'infrastructure cyclable. Et ce sont des gens qui devaient défendre leur propre idée qui était controverse pour beaucoup de monde. Mais ici, en fait, avec les dirigeants actuels, on peut finalement dire que depuis 18 ans, c'est toujours le même parti qu'elle gère. Donc là, elle n'a pas de volonté de changer quelque chose ou de faire une rupture ou une décision un peu plus radicale.
Malgré ce constat, et pour s'efforcer de faire avancer les choses dans le bon sens, se tiendra le 25 septembre à Prague, Budapest, Košice en Slovaquie et à Toruń en Pologne, une manifestation baptisée « Vivre la ville autrement ». À Prague, pendant l'espace d'une journée, le quartier de Vinohrady, habituellement très fréquenté par les automobilistes, se transformera ainsi en zone piétonne.
Ketseime do toho, ou approximativement, mêlons-nous de leurs affaires en français. C'est ainsi que s'intitule une nouvelle initiative lancée par le Conseil tchèque des enfants et de la jeunesse, qui se propose de donner à la jeune génération la possibilité de se prononcer sur des thèmes d'actualité. Plus de détails avec Václav Richter.
La participation des jeunes au débat public n'est pas suffisante et ils ne font que rarement entendre et valoir leurs opinions. Le Conseil des enfants et de la jeunesse a donc préparé des discussions et des ateliers dans les écoles et d'autres manifestations pour les jeunes. Le projet est préparé pour la prochaine année scolaire et s'il fait ses preuves, il pourra continuer même au-delà de cette limite. D'après le coordinateur du projet Jan Husák, les jeunes sont un groupe discriminé dans un certain sens car ils manquent d'expérience et de possibilités. De s'exprimer.
L'objectif de ce projet est de créer une plateforme nationale et même en partie européenne qui donne aux jeunes la possibilité de s'exprimer et de discuter sur les thèmes qui les concernent. Nous évoquerons donc avant tout les thèmes qui touchent les jeunes, dont par exemple l'introduction du baccalauréat national, un thème très brûlant et très discuté actuellement, ou bien le paiement des études supérieures, le droit de vote à 16 ans, l'offre d'emploi pour les jeunes, ce qui est un thème qui est actuellement traité par l'Union européenne, etc.
Momentalement, třeba řeší Evropská unie a podobně.
Selon Jan Husák, les organisateurs du projet n'ont pas cependant l'ambition de créer un État dans l'État ou une République des jeunes. Leur initiative n'est liée avec aucune idéologie ou formation politique. Ils désirent cependant exercer une certaine influence sur les structures déjà existantes. Et Jan Husák de souligner que les données résultant du projet seront transposables au niveau politique et administratif, car les organisateurs sont en contact avec le ministère de l'Éducation nationale. Les données en question seront donc introduites dans le processus politique au ministère.
Évidemment, quand nous aborderons les thèmes qui ne concernent pas directement le ministère de l'Éducation nationale ou les thèmes essentiellement politiques, dont le droit de vote à 16 ans, dans ce genre de questions, nous essaierons de faire quelque chose comme du lobbying politique, dans le sens positif du mot, naturellement.
Le projet d'1,5 million de couronnes, 58 000 euros, est financé à 70% par l'Union européenne. La catégorie d'âge visée par ces organisateurs est de 16 à 26 ans. Les jeunes auront la possibilité de voter et de discuter sur différents thèmes sur un nouveau site web connecté avec les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Ils pourront aussi présenter leurs propositions de changements concrets. Dans le cadre du projet, sera aussi organisée à Prague le 9 septembre prochain une rencontre des jeunes dans le parc de Parukaška avec un programme culturel, musical et sportif. L'entrée est libre et les participants pourront s'exprimer sur des thèmes d'actualité et proposer aussi de nouveaux thèmes de discussion.
À l'heure du téléphone portable, que les Tchèques ont été très rapides à adopter, les cabines téléphoniques sont de moins en moins utilisées. Lentement mais sûrement, l'Office tchèque des télécommunications les supprime. L'année prochaine, environ 700 cabines devraient disparaître. Il faut dire que l'entretien est coûteux. Rien qu'avec la suppression de ces quelques centaines de cabines, près de 15 millions de couronnes devraient être économisées, comme le précise Marek Ebert de l'Office tchèque des télécommunications.
Ces économies seront réalisées directement sur le budget public. Les frais d'entretien et de maintenance des cabines sont relativement élevés. Pour l'année 2008, ils représentaient environ 92 millions de couronnes.
La société Telefonica Otu, anciennement Český Telecom, la compagnie nationale, reçoit de l'argent public pour gérer les 18 000 cabines téléphoniques toujours en fonction sur l'ensemble du territoire tchèque. La réduction de ce chiffre a donc commencé, mais l'Office national des télécommunications tient à ce qu'il reste au moins une cabine dans chaque ville de plus de 5 000 habitants. Selon les informations fournies par l'opérateur, les cabines sont aujourd'hui utilisées le plus souvent en cas d'urgence. Environ 300 appels d'urgence par an sont passés depuis des téléphones publics. Blanka Vokounova est la porte-parole de Telefonica Otu.
Le nombre de communications passées depuis les cabines téléphoniques baisse régulièrement, c'est un fait. Cependant, il y en aura toujours et elles ont un rôle irremplaçable dans les situations d'urgence.
L'avenir de ces cabines téléphoniques en République tchèque n'est pas encore tout à fait déterminé. L'Office des télécommunications se donne 2 ans pour analyser l'évolution de la situation et décider de continuer ou non à financer l'entretien de ces cubes qui font depuis des années partie du mobilier urbain. Et c'est sur la fin annoncée ou presque annoncée des cabines téléphoniques en République tchèque que se terminent ces faits et événements. Le programme en français se poursuit dans une poignée de secondes avec un nouveau chapitre de l'histoire.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
Comme le précisent certains spécialistes d'Europe centrale, les Habsbourg ont commis assez d'injustices pour ne pas en rajouter. Au tableau sombre légué par les historiographies françaises mais aussi tchèques, il convient de restituer l'autre face de l'Empire austro-hongrois à 100 lieues des images convenues.
On nous a appris à l'école, vraiment c'était sombreté totale, des jésuites ont poursuivi tout le monde, toujours, ils ont brûlé tout le monde s'il y avait des personnes qui avaient une autre opinion qu'une opinion de catholiques, ils étaient brûlés, alors ils étaient obligés, les gens étaient obligés de renoncer à ses propres opinions et de tout le monde devait devenir à 100% catholique. Je pense cette contre-réformation qui était au début vraiment on a poursuivi ce qu'on a appris, ça on a poursuivi beaucoup de personnes, mais à la fin cette contre-réformation ça a beaucoup apporté pour le changement de l'Église catholique. Mais normalement, je vois maintenant, quand je suis plus âgée, le désœuvre vraiment des églises, le baroque en effet. Je connais l'église qui est typiquement catholique, Saint-Nicolas, à Malastrana. On a appris que c'est que ces églises, ça devrait faire peur, c'était monumental, vraiment énorme, ça donnait beaucoup d'impressions, c'était pas calme des églises, c'était des églises vraiment grandioses, qui devrait faire angoisser les gens pour que vraiment ils soient tous obéissants et 100% catholiques. Alors, on a appris plutôt, on n'a pas beaucoup appris à 100% sur l'art.
Karine appartient à cette jeune génération de Tchèques qui fréquentèrent l'école durant les dernières années du régime communiste. Elle nous livre ici l'historiographie officielle de l'époque sur les Habsbourg, sans nuance. Une histoire idéologique qui a voulu faire d'Habsbourg un symbole de germanisation en terre tchèque. Rien n'est plus éloigné de la réalité. À l'époque, les divisions étaient d'abord religieuses et le concept de nation n'était pas aussi fluide qu'aujourd'hui. D'ailleurs, on le sait peu, lors de la révolte des États tchèques vers 1618-1619, ce sont des catholiques tchèques fidèles aux Habsbourg qui défenestrent des Allemands de Bohême protestants. Cette idée d'une tentative de germanisation a aussi été soutenue par l'historiographie française du XIXe siècle. D'où cette image, encore vivante aujourd'hui, de l'Empire des Habsbourg comme prison des peuples. Là encore, l'image est bien trop simpliste, dépendant de l'aristocratie tchèque pour les contributions financières, les Habsbourg ont constamment adopté une politique de relatif compromis. La langue tchèque était d'ailleurs reconnue à égalité avec la langue allemande. Certes, au XVIIe et XVIIIe siècle, Prague est reléguée au second rang après Vienne dans l'Empire, et on a pu parler d'une certaine provincialisation de la Bohême. Et pourtant, c'est bien par Prague que pénètre d'abord l'art baroque en Europe centrale, avant de resplendir ensuite à Vienne. Et en retour, la Bohême participe avec éclat à cette civilisation baroque. Agnès, une jeune Hongroise, exprime même une certaine nostalgie pour cette époque révolue.
Ce que le mot Habsbourg évoque pour moi, d'abord un grand empire bien sûr, cela me rappelle aussi un monde d'art et de beautés étonnantes, une culture très riche. Je ressens en même temps une certaine tristesse car je pense qu'une telle culture devrait perdurer. J'ai d'ailleurs une expérience personnelle à ce sujet car mon père, qui est le maire de ma ville d'origine en Hongrie, a rencontré l'un des descendants de la famille Habsbourg.
Et en effet, la politique de contre-réforme des Habsbourg n'a pas revêtu uniquement le visage de l'oppression. C'était aussi un mode de vie social, avec ses fêtes, ses processions, des repères, auxquels se sont identifiés une grande partie des Tchèques de l'époque. D'ailleurs, le succès des jésuites dans l'entreprise de recatholicisation des terres tchèques est avéré à Prague, mais dans le reste de la Bohême, le résultat fut plus mitigé, faute de visites pastorales. Surtout, les divisions n'ont pas épargné les catholiques eux-mêmes, contribuant à les affaiblir face aux camps protestants. Ainsi, au XVIIe siècle, le triomphe des jésuites à Prague suscite l'inquiétude du cardinal Arach, archevêque de Prague, mais également chancelier de l'université de Prague, où les jésuites détiennent les postes clés. Arach trouvait dans cette rivalité le soutien des ordres qui avaient été écartés de l'université au profit des jésuites, dominicains de Saint-Gilles, franciscains de Saint-Jacques. Arach menaçait d'interdire l'université. On a même pu voir des affrontements de rue, les étudiants jésuites venant injurier le cardinal quand il quittait le palais épiscopal. À leur tour, les jésuites tenteront d'interdire le séminaire diocésain fondé par le cardinal Arach avec l'ordre des prémontrés et le feront fermer à plusieurs reprises avec l'aide de Ferdinand II et Ferdinand III. À la fin du XVIIIe siècle, la priorité n'est plus à la catholicisation de la Bohême, mais à la formation d'un empire moderne et centralisé. Et c'est alors de la dynastie très catholique elle-même que proviennent certaines initiatives étonnantes. Ainsi concernant l'église Saint-Nicolas de la Vieille Ville, dont nous écoutons le sacristain Jindřich Keir.
Tady Josefem II. Byl tento kostel...
Joseph II a fait fermer cette église et a transféré sa propriété à la ville de Prague, l'intérieur ayant été déménagé dans une autre église. L'église avait donc été fermée à la fin du XVIIIe siècle et il n'y avait plus d'office religieux. Par ailleurs, Joseph II avait également fait fermer le monastère, qui à l'époque dépendait de l'église et appartenait aux bénédictins.
Město hlavní město Praha. A je tomu až do dneška, je to vlastně majetek tady Prahy.
Construite et décorée par de grands noms du baroque triomphant, Kilian Ignaz Dizenhofer, Matthias Braun, l'église Saint-Nicolas passe dans les années 1920 entre les mains de l'église hussite tchécoslovaque, un symbole de la réussite très relative de la contre-réforme en Bohême à long terme.
Mmh.
C'était David Alon pour ce nouveau chapitre de l'histoire. On se quitte en musique avec la Rusalka de Dvořák, puisque vous le savez, on en parlait hier. C'est en ce moment le festival de musique classique La Prague de Dvořák, Dvořáková Praha. Pour plus d'infos, c'est sur notre site internet www.radio.cz. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Au revoir, demain, même heure, même fréquence, vous le savez, Nasredano.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.